Vous vous souvenez de We Happy Few ? C'était la folie en 2017. Son trailer était sur toutes les lèvres. Une ville terrifiante où les habitants prennent des pilules pour rester heureux. Une esthétique à la BioShock, un mystère pesant, on croyait tous au prochain AAA. Sauf qu'on a été trompés par la direction artistique. À la base, c'était juste un petit jeu d'un petit studio qui n'avait qu'une création à son actif. Contraste, et c'était pas fou. We Happy Few n'était qu'une copie indé de Don't Starve ou Isaac, un rock-like survie, tout ce qu'il y a de plus banal. Pour ne pas briser la hype, les développeurs n'ont rien dit. Ils décident de faire l'impossible, transformer entièrement le jeu en rajoutant un maximum d'éléments narratifs. Ils engagent plus de monde, acceptent des financements, tout ça en seulement un an, convaincus de pouvoir relever le défi. Résultat, un hybride un peu boiteux. Pas une catastrophe, mais loin d'être la claque attendue. En vrai, cet exemple se finit presque bien quand vous allez voir les naufrages industriels dans cette vidéo. L'histoire de ces jeux qui auraient pu devenir des classiques s'ils avaient su être raisonnables. Quand le nom ne fait pas tout. Une démo de 20 minutes qui nous annonçait le prochain Silent Hill. Une collaboration entre Hideo Kojima, le papa de Metal Gear, et Guillermo del Toro, réalisateur du labyrinthe de Pan. C'était terrifiant, angoissant, bien rythmé, comme cette femme qui apparaît régulièrement au pire moment. Tout le monde était fou, ça faisait la une de la presse. Encore aujourd'hui, c'est pour certains le meilleur jeu d'horreur de tous les temps. Sauf que c'est tombé en plein dans la tempête entre Hideo Kojima et son éditeur Konami. D'un côté, un homme qui voulait provoquer une révolution à chaque jeu, de l'autre, une entreprise pas trop chaude pour financer des folies. Finalement, Kojima part faire Death Stranding de son côté et Silent Hill dans les oubliettes. Avoir des gros noms à l'affiche n'est pas une assurance. LMNO, une collab entre EA et Spielberg, un RPG dans lequel vous sauvez Eve, une alien. Vous devez l'aider à cacher son identité et échapper au gouvernement. Pas d'armes à feu, que du combat à main nue et de la fuite en parcours. On est en 2005, avant Mirror's Edge et Assassin's Creed. Le jeu est splendide, mais le plus ambitieux, c'était Eve elle-même. Elle avait une IA complexe avec sa propre personnalité, changeant de réaction suivant les événements. Là encore, c'est EA qui a paniqué devant le trop d'ambition. Ça allait coûter une fortune et le concept n'avait pas encore fait ses preuves. Le projet est abandonné, il ne nous reste plus qu'une vieille démo. Après, arrêter un jeu avant la catastrophe, c'est pas toujours une mauvaise idée. Regardez Daikatana dont Joueur du Grenier a parlé. Un FPS développé par John Romero, le type derrière Wolfenstein 3D et Doom et Quake. Il devait sortir en 97 et ça s'annonçait comme le jeu du millénaire. Un FPS avec une vraie histoire, des cinématiques et un doublage. If the Daikatana is here, we'll find... La possibilité de visiter plusieurs époques, de la Grèce antique jusqu'aux samouraïs du futur. Il y a aussi deux PNJ qui combattent avec vous et vous aident à résoudre les énigmes. Du jamais vu à l'époque. Mais Romero voulait le jeu ultime. Alors il va faire des caprices. Ils vont changer de moteur graphique plusieurs fois en reprenant tout depuis zéro. Et pas question de retirer ses idées pour gagner du temps. Les conditions de travail deviennent horribles, ce qui provoque la démission de toute l'équipe. Finalement, le jeu sort avec 3 ans de retard. La déception est immense, c'est moche, incompréhensible. L'IA est naze, remplie de mécaniques bizarres, comme le fait que les sauvegardes soient des objets consommables. Ou que si les PNJ meurent, vous perdez. Accompagné de sa campagne pub étrange où Romero annonce qu'il va faire de vous, c'est un énorme échec commercial à plus de 30 millions de dollars. Mais je crois que le meilleur exemple, c'est APB. Une catastrophe à 100 millions. En 2005, David Jones, l'homme derrière les deux premiers GTA, veut révolutionner le jeu en ligne. Il arrive alors avec un nouveau concept. Un open world dans lequel ça des criminels et des policiers. Un bac à sable géant où vous pouviez cambrioler des banques, des commerces, provoquer des guerres de gangs, monter votre faction. Pour les joueurs, c'était rien d'autre que l'annonce de GTA Online 8 ans avant celui de Rockstar. La hype que c'était. L'éditeur de personnages était incroyablement complet. En montant de niveau, vous gagnez des cosmétiques, pas des stats. Un peu comme avec les Battle Pass actuels. Le jeu s'annonce comme un immense succès, alors tout le monde investit dessus. Ils multiplient par 5 leur budget initial en seulement 2 ans. Et c'est ce qui va causer leur perte. Convaincu que rien ne pouvait rater, David Jones devient moins pointilleux. Il laisse ses équipes en autonomie et elles font le minimum syndical. À côté de ça, faut gérer la com, les partenariats, l'aspect économique. À la sortie du jeu en 2010, le monde entier hallucine. Le tir et la conduite ne sont pas agréables, il y a des problèmes de lag, un manque de contenu, l'univers est pas cohérent, ça se voit que c'est pas fini. Sauf qu'on parle d'un projet à 100 millions. À l'époque, c'était le jeu le plus cher du monde. Encore aujourd'hui, il est quatrième juste derrière Red Dead Redemption 2. C'est une catastrophe. Le studio tente d'interdire les reviews de presse, mais le bouche à oreille est immédiat. Les gens jouent quelques heures et laissent tomber. Le studio se retrouve obligé de fermer les serveurs après seulement 86 jours. Une faillite dans la foulée. APB sera revendu à une autre compagnie pour 1,5 million qui rendra le jeu free-to-play. Vous pouvez encore y jouer aujourd'hui, par nostalgie ou curiosité, de ce qui a failli révolutionner l'histoire du multijoueur. D'ailleurs, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. 70% des gens qui regardent cette vidéo ne sont pas abonnés, ça ferait plaisir que vous fassiez un petit geste. Le plus gros flop de l'industrie. En 96 sort Duke Nukem 3D, un jeu parodique, politiquement incorrect et ultra violent, avec un héros passionné par les femmes, les flingues, les cigares et l'explosage d'aliens. Il était parti pour être l'une des icônes des FPS modernes. Sa suite, Duke Nukem Forever, devait sortir en 98, mais le développement va durer 15 ans. Pour beaucoup, c'est la faute d'un seul homme, George Broussard, le directeur du projet. Un an seulement après le début du développement, ils décident que leur moteur graphique actuel est trop vieux. Alors ils achètent les droits de celui de Quake 2 pour un $500,000 de dollars. Un investissement que la boîte peut se permettre après le succès du jeu précédent. Tout a l'air de rouler, on a même un trailer à l'E3 98. Sauf que la même année, Epic Games sort l'Unreal Engine, le moteur le plus réaliste de l'époque. Pour l'équipe de Duke Nukem, pas question de faire un jeu moche. Alors pour la seconde fois, ils recommencent le jeu de zéro, tout en assurant que rien ne va changer. À ce moment, Duke Nukem avait signé son arrêt de mort, le jeu avait déjà 2 ans de retard. On prendra le temps qu'il faut, mais le jeu sera parfait. Il devient super exigeant, il veut tout le temps des nouveautés, un niveau dans la neige, des cinématiques, du multijoueur. Après 3 ans de développement, toujours pas de jeu, juste des démos techniques. En 2001, un nouveau trailer spectaculaire, c'est magnifique, fun, dynamique, le jeu pourrait être l'un des plus gros FPS de tous les temps, la hype est relancée. Sauf qu'en coulisses, c'est la catastrophe. L'équipe de développement est minuscule, ça avance pas. Broussard veut encore une fois tout recommencer. En 2006, presque la moitié de l'équipe avait quitté le navire, tout le monde était en burn-out et après autant de temps, il n'avait plus aucun recul sur le jeu. En 2009, après avoir dépensé plus de $20 millions de dollars, la boîte est à sec. Broussard tente de récupérer 6 millions de plus auprès de son éditeur Take-Two, qui en propose seulement 2,5. Mais Broussard refuse et décide d'arrêter le développement. L'équipe de Duke Nukem est renvoyée. Un petit groupe de 9 ex-employés continuera de bosser sur le jeu jusqu'à ce que Broussard aille voir Gearbox pour demander de l'aide. Le jeu sort finalement en 2011 et... bah c'est super moyen. On dirait un jeu d'une autre époque, l'humour marche pas, le combat est sans saveur, le level design carrément nul avec des énigmes ou des phases de conduite molles. Mais ça sera surtout une immense déception pour les fans qui attendaient le jeu depuis 15 ans. Les anciens devs se disputent toujours sur les réseaux sociaux pour savoir qui est le vrai responsable. Il y a pas longtemps, une bêta du jeu de 2001 a été retrouvée, c'est pratiquement injouable avec une petite commu qui s'est formée pour essayer de restaurer le projet. Après 25 ans d'attente, on va peut-être avoir enfin la suite que la licence mérite. Le cauchemar des MMO. Est-ce que vous saviez qu'Overwatch devait être le plus grand MMO de tous les temps? A l'époque, on appelait ça Project Titan, le remplaçant de World of Warcraft. Rien que ça. Pour l'occasion, Blizzard avait mis les moyens en recrutant un paquet de devs talentueux. Vous y incarnez des sortes de super-héros dans un monde futuriste. On annonçait des villes de science-fiction gigantesques à la cyberpunk, avec des PNJ qui réagissent à vos actions passées, tout ça jouable en FPS ou à la troisième personne, avec un tas de classes originales qui changent vraiment le gameplay. Par exemple avec le Jumper, capable de se téléporter et de revenir dans le temps. L'aspect gestion était très poussé. Vous pouviez monter votre entreprise, avoir un boulot, gérer un commerce, c'était même possible d'ignorer l'aspect combat. Sauf que c'était pas fun. En 2014, après 6 ans de développement, l'équipe s'est rendu compte qu'ils allaient dans le mur. Trop confiants, ils ont confondu révolution et mauvaise idée. Le projet a été jeté à la poubelle, mais de ses cendres est né Overwatch. Tracer, c'est l'ancienne classe Jumper, Torbjorn, l'architecte, et Widowmaker, le Ranger. Si pour une boîte aussi énorme que Blizzard, faire un MMO c'est un challenge, imaginez pour les autres. Plein de jeux ont voulu révolutionner le genre. Tabula Rasa, avec ses classes évolutives et ses champs de bataille dynamiques, sera un échec à $25 millions de dollars. Ou Wildstar, qui se voulait exigeant et hyper dense en contenu, vivra une lente agonie, incapable de retenir ses joueurs. Mais c'est plus la mauvaise gestion que l'ambition qui a causé leur perte. Si on veut trouver des champions, des promesses impossibles à tenir, il faut aller voir du côté de Kickstarter. Raw, un jeu qui se vendait comme un MMO ultra réaliste, un peu dans la veine de GTRP, trouver un travail, acheter sa maison et sa voiture, élire un gouvernement, puis monter son business en construisant une station-service ou un hôtel, ou bien se tourner vers la criminalité. Le style de jeu dont les gens rêvent, la liberté totale. Sauf qu'après avoir récolté $170,000, Kickstarter a annulé leur campagne et remboursé tout le monde. Les devs avaient avoué dans une FAQ qu'il leur faudrait plus de fonds pour finir le jeu. Normal qu'ils soient tendus, des jeux du genre on en a vu des tas, et c'est toujours la même histoire. Identity, un monde entièrement sous le contrôle des joueurs, $190,000 sur Kickstarter, puis $1,4 million sur leur site web. C'était il y a 8 ans, aujourd'hui toujours rien. Juste une démo moche et injouable accompagnée de quelques vidéos. Dreamworld, autoproclamé le dernier jeu auquel vous jouerez, un open world infini dans lequel vous pouvez visiter tous les univers, construire et creuser n'importe où. Ils avaient même inventé un système pour héberger plusieurs millions de joueurs en même temps sur la même map. Ces devs ont apparemment reçu des millions d'investisseurs secrets. Impossible de savoir si c'est une arnaque ou s'ils sont complètement fous. L'alpha n'était rien d'autre que des modèles 3D posés au pif sur une map qui laguait. Le jeu continue d'avoir des updates, mais pour l'instant, on est très loin de la promesse. Oath, Dead Matter, Titan Reach, Greenmonger, la liste est longue. longue. S'il y a bien un jeu qui les écrase tous, c'est Chronicle of Elyria. La promesse était grandiose. Un MMO médiéval dans lequel vous pouviez mourir de vieillesse puis transmettre vos capacités à un nouveau personnage. Un monde entièrement destructible, aucun PNJ, quand vous vous déconnectez, votre personnage continue de se balader. Il ira même donner des quêtes aux autres joueurs. Le projet avait l'air vraiment solide. Ils avaient même une démo jouable. 1,4 million récoltés sur Kickstarter et les donations continuent jusqu'à atteindre 8 millions de dollars. À 6 mois de la sortie, les premiers problèmes apparaissent. Ils ont clairement sous-estimé la dose de travail. Ils ont du mal à recruter des développeurs compétents et sont obligés de repousser le projet. Ils faisaient régulièrement des updates sur leur blog, longs et détaillés, alors les gens n'étaient pas trop inquiets. Le jeu est repoussé encore et encore. On continue de le financer, tout le projet est spectaculaire, faut prendre son mal en patience. Jusqu'à ce que fin 2019, la toute première vidéo de gameplay soit postée sur leur chaîne YouTube. Dans les commentaires, les gens sont outrés. Ça ressemble pas du tout à ce qui a été promis. Il y a plus de doute, l'équipe ne sera jamais capable de faire ce jeu. 6 mois passés, miracle, le studio annonce une alpha. Enfin, les joueurs vont pouvoir le tester, ça tease dans tous les sens, il y aura du gameplay et même un moyen pour les joueurs d'acheter des terrains. Avec de l'argent réel évidemment. L'alpha sort et c'est pire que prévu. Une vieille course d'obstacles, c'est tout. 5 jours après avoir publié la première version jouable du jeu, alors qu'il venait d'essayer de gratter plus d'argent, Jeremy Walsh, le directeur du jeu, vire tout le monde et arrête le développement du jeu. Apparemment, il n'a plus d'argent. En 6 ans et avec 8 millions, il a été incapable de convaincre les investisseurs, incapable de produire un jeu et incapable de s'excuser pour ses erreurs. Il est très vite revenu sur sa déclaration, assurant qu'il continuait le projet, seul, aidé par des bénévoles. Les joueurs venaient de lancer une action en justice contre lui, tant qu'il continue le projet, il ne risque rien. Aujourd'hui, il affirme être endetté à hauteur d'un demi-million de dollars et toujours aucune trace du jeu promis. Le jeu qui a failli changer l'histoire. Dans les années 90, on a failli avoir le jeu Jurassic Park parfait. Un survival horror avec une map gigantesque. Fourmi en deux détails, une IA à la pointe de la technologie, des dinosaures avec des émotions, tout ça dans un environnement ouvert supporté par une physique ultra réaliste. En 95, aucun FPS n'avait jamais fait ça. Par exemple, il n'y avait aucune animation préenregistrée. À la place, les mouvements des dinos étaient générés de manière procédurale par une IA, en fonction de ce que le joueur faisait. Les devs ont dû fabriquer leur propre moteur graphique pour l'occasion, capable d'afficher des environnements denses, avec des textures qui passaient de la 2D à la 3D en fonction de la distance. Une gestion poussée des collisions, possibilité de soulever ou déplacer les objets. Ils ont même inventé le ragdoll. Mais il y avait trop de choses prévues et pas assez de temps. Le jeu devait être prêt pour la sortie du deuxième film, seulement 2 ans. C'est pas le plus gros problème, car il y avait le chef du projet, Seamus Blackley. Il était convaincu de pouvoir coder la physique du jeu tout seul. Alors il s'enfermait dans son bureau et parlait à personne. Dans l'équipe, il y avait des gens super talentueux, hein, des ex de chez Disney pour la 3D. Mais aucun encadrement, livré à eux-mêmes. Le chef était absent et il tenait pas le rythme. Personne n'osait critiquer le patron, du coup tout était centré autour de l'aspect technique. Il n'y avait aucun scénario ni idée de gameplay. Forcément, ils ont pris du retard, le studio a mis la pression aux développeurs pour pas qu'ils explosent le budget, le jeu a dû être rushé pour sortir un an après la date prévue. La physique est pas au point, l'IA des dinos n'a jamais été terminée, à la place de réagir de manière cohérente, ils font juste n'importe quoi. Ils ont carrément retiré un bras au personnage parce qu'ils n'arrivaient pas à coder les deux en même temps. À l'époque, personne n'avait de PC assez puissant pour le faire tourner, alors ça rame, les textures apparaissent au pif, les objets traversent le sol, c'est truffé de bugs. Ça a été un violent échec critique et commercial, décevant les fans des films et de jeux vidéo. Pourtant, avec son monde ouvert et sa physique réaliste, le jeu marque un tournant dans l'histoire du FPS. Halo, Far Cry ou Half-Life 2 n'auraient jamais été ce qu'ils sont si Jurassic Park Trespasser n'était pas passé avant eux. Encore aujourd'hui, il y a une grosse communauté de fans qui continue de faire vivre le jeu, avec des patchs, des mods et des remakes en HD. Blackley, lui, assumera sa responsabilité, ce qui ne l'empêchera pas de se faire repérer par Bill Gates, impressionné par ses innovations techniques sur Trespasser. Quelques années plus tard, celui qui avait fait échouer le jeu à cause de son ego imaginera la première Xbox. Car peut-être que certains jeux méritent une seconde chance. Regardez No Man's Sky. Quand le jeu est officiellement sorti, c'était considéré comme une des plus grosses arnaques de l'industrie. Il a depuis reçu plus de 30 patchs de contenu. Il y a du multijoueur jusqu'à 32 en cross-plateforme. Vous pouvez construire votre base, apprivoiser des animaux, tout a été amélioré. Les quêtes, la HUD, la génération des planètes, le jeu est top. Celui dont on rêvait depuis le début. On vit un peu la même chose avec Cyberpunk 2077. Avec du temps et de bonnes conditions, on finit par les avoir, nos jeux ambitieux. Qui sait, peut-être même Star Citizen, avec sa promesse d'être la simulation spatiale la plus poussée de tous les temps. Ses 550 millions de budget et ses 10 ans de développement sera la révolution qu'il nous promettait en 2012. Ça, seul l'avenir nous le dira.